France Culture.
Donc, approchez-vous pour les personnes qui veulent. Vous aussi, vous pouvez participer si vous voulez. Je vais vous proposer un débat mouvant à ma sauce. Si vous avez envie de vous lever, les personnes qui ont envie de réfléchir collectivement et prendre la parole, je vais vous proposer une phrase et puis vous allez vous mettre d'un côté si vous êtes d'accord avec une des propositions et de l'autre côté si vous êtes d'accord avec l'autre proposition.
Causerie décoloniale.
Et ensuite, vous allez essayer de trouver le maximum d'arguments.
Festival Chahut.
Et ma phrase clivante...
8 juin 2025.
C'est « Pour un Bordeaux idéal, il faut déboulonner ou il faut laisser trace ». Donc, déboulonner, c'est à ma gauche, et laisser trace, c'est à ma droite. Et on n'a pas le droit de se mettre au milieu, parce que ce n'est pas la rivière du doute, c'est un positionnement un peu tranché.
Moi, je suis à gauche.
C'est un jeu. Après, vous allez voir que c'est un débat mouvant, donc le but, c'est de bouger. La deuxième phase du débat mouvant, c'est que vous allez vous mettre par deux ou trois, par petits groupes, et vous allez essayer de trouver le maximum d'arguments pour défendre votre position. Vous avez 5 secondes, c'est parti, top chrono.
Esclavage, héritage d'hier, voix d'aujourd'hui. Une série documentaire d'Aurélie Bambuc, réalisée par David Jacuboviez. Épisode 2, Bordeaux, un passé à digérer.
Juste pour rappeler votre groupe là,
nous on est pour le déboulonnement.
Pour le déboulonnement,
ouais, on est d'accord.
Nous on déboulonne.
Et là vous argumentez sur quoi?
On argumente sur pourquoi on déboulonne.
Et pourquoi vous êtes pour déboulonner?
Ne pas donner de la place sur l'espace public à des gens qui commettent des atrocités.
Que symboliquement, le déboulonnage est un acte aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de faire des actes, d'avoir des actes forts, symboliques.
Et qu'on va consacrer de l'argent à planter des arbres à la place des statues pourries. Avec une petite plaque en bas. Ici fut déboulonné Bibi.
On pourrait faire un musée avec toutes les œuvres déboulonnées. Parce que l'espace public appartient à tout le monde. Tout le monde a le droit d'y être à l'aise. Et pas être bousculé par des œuvres, des statues blessantes. Voilà.
Bordeaux et son ouverture sur la mer, qui fit de la capitale d'Aquitaine l'un des plus grands ports d'Europe et l'un des fleurons du commerce colonial français, avec le sucre, le café, le cacao.
Extrait de l'hebdo de RFO.
Se bâtirent ici d'immenses fortunes.
Octobre 1999.
Quelques-unes se firent aussi avec le sinistre commerce triangulaire. Ainsi, 150 000 esclaves furent-ils déportés d'Afrique vers les Antilles sur des navires armés à Bordeaux. Ce dont s'émeut aujourd'hui la communauté noire de Bordeaux qui demande que soient débaptisées certaines rues.
Nous pensons que c'est un devoir de mémoire et qu'il est scandaleux qu'à l'orée du 21e siècle, qu'il y ait encore des rues qui portent les noms d'anciennes familles esclavagistes.
Qui efface tous les noms des rues, qui efface tous les noms des rues, qui efface tous les noms des rues.
Pendant plus de 4 siècles, l'Afrique, bien évidemment, incontournable dans l'histoire de la mondialisation, fut saignée de ses enfants.
23 août 2025.
Des millions d'êtres humains arrachés à leur village.
Bordeaux.
Jetés dans l'abîme des cales.
Place l'aîné.
Traversant l'océan dans des conditions indicibles.
Manifestation organisée par l'association
et sûr,
Mémoire et Partage.
Qui d'autre que Bordeaux a été aux avant-postes de cette activité criminelle qui du 15e au 19e siècle a saigné l'Afrique.
À l'occasion de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition.
Oui, Bordeaux fut un des grands ports négriers français. Si Bordeaux était effectivement le deuxième port négrier en commerce triangulaire, Bordeaux fut le premier port colonial, donc le port qui s'est le plus enrichi de l'esclavage et de la traite des Noirs. Mais vous me direz, à quoi bon rouvrir ces plaies? Parce que se taire, ce serait trahir. Parce que l'oubli serait un deuxième esclavage. La mémoire n'est pas une prison, chers amis. C'est une lampe. Elle éclaire le chemin d'aujourd'hui, elle nous enseigne que la liberté n'est jamais donnée, mais conquise, qu'elle n'est pas un héritage figé, mais une vigilance de chaque instant. Et dans nos sociétés d'aujourd'hui, les cicatrices sont encore visibles. Inégalités, discrimination, exclusion, préjugés. Se souvenir, c'est comprendre. C'est comprendre que ces fractures ne viennent pas de nulle part. Elles sont les héritages d'histoires que l'on a voulu effacer.
Les témoins, vous découvrez par vous-même que cette abracadabrantesque histoire, c'est toute la population de la ville qui en pâtit.
Lorsque je me suis installé à Bordeaux en 2014, j'avais conscience de débarquer dans un ancien port négrier. Mais ce passé était invisible. Les belles façades masquaient la sueur et le sang versés par mes ancêtres. Les auteurs du crime étaient mis à l'honneur dans les rues. Les noms affichés, sans préciser leurs méfaits. Les victimes étaient oubliées. Comment admirer sans y penser ?
Oh, ben elle est belle ! Elle est belle, cette plaque, sur un joli bâtiment tout rénové. Alors, présente-nous, là, juste où on est.
On est dans le 5e arrondissement de Bordeaux, à l'angle de la rue Mounera et de la rue Dès.
Tu peux nous lire ce qui est inscrit donc, sur cette plaque explicative qu'on voit différente des autres. Hein. On voit qu'elle a été rajoutée.
Alors, rue Dès.
Donatien Garnier, poète, performeur, plasticien.
Pierre Dès, 1760-1839, marin bordelais. S'est illustré comme capitaine corsaire pour avoir sauvé 92 hommes d'un navire hollandais en perdition, le Columbus. La Chambre de commerce de Bordeaux fit frapper en 1823 une médaille en son honneur. Pierre Dès fut le capitaine de 4 expéditions négrières entre 1789 et 1818. Son neveu Paul, 1808-1862, sauva quant à lui 112 hommes d'un navire anglais, le marquis de Camden, en perdition en mer de Chine, ce qui lui valut, semble-t-il, d'être associé à son oncle pour la dénomination de la rue. La traite négrière et l'esclavage ont été reconnus en France en tant que crimes contre l'humanité par la loi dite Taubira, promulguée le 21 mai 2001.
Que penses-tu des explications donc inscrites sur ce panneau ?
Alors, avant de dire ce que j'en pense, je précise que je considère comme un très grand progrès le fait que cette plaque explicative existe. Maintenant, le contenu de la plaque me paraît complètement scandaleux, dans la mesure où il n'y a qu'une seule ligne qui concerne la traite négrière, donc l'implication du sieur Dès dans ce commerce mortifère. Le reste est une accumulation de justifications ex post qui visent à noyer le poisson. Elle est aussi le reflet de tous les conservatismes, tous les freins qu'il y a dans la, dans la mairie de l'époque, la mairie d'Alain Juppé, qui a quand même fait ce pas, mais qui est aussi le reflet de tous les blocages et tous les freins qui continuent d'exister quant à la considération de cette histoire.
Et cette plaque, tu l'as découverte quand ?
J'ai été la voir un jour après qu'elle ait été posée. Mais en fait, j'ai pas tout de suite été choqué. C'est vraiment, il m'a fallu du temps pour réaliser l'énormité de ce qu'elle contenait. On peut revenir sans cesse sur cette plaque, sur tout ce qu'elle dit, sur ce qui est mis en avant. Et ses erreurs aussi, hein. Il fut le capitaine de 4 expéditions négrières, il y en a au moins 6, je dis bien au moins, parce qu'il est très probable qu'il y en ait beaucoup plus. Par contre, il y a une singularité que j'ai lue, il faudrait la vérifier, mais que Pierre Dès, c'est le seul capitaine négrier qui ait une rue à son nom. Le reste, c'est plutôt des armateurs. Bon, c'est un détail, ça n'a pas grande importance, mais... entre le voleur et le receleur, qui honorait.
Comment tu as découvert,
toi, dans ton histoire familiale, que tu descendais d'un négrier bordelais ?
Ça s'est fait par petites avancées, petits indices dont je n'ai pas eu conscience au départ et puis que d'un coup se sont révélés. C'est quand je commençais à préparer mon livre « Devenir noir », j'ai créé un premier texte qui est tatoué sur un corps où le texte devient envahissant au point de recouvrir tout le corps de la personne, comme une sorte de cancer en fait, d'une métastase qui prend... Et la personne devient noire et tout d'un coup je suis confronté à cette irruption d'une autre couleur. Et donc, la couleur noire, le mot noir, l'idée d'un corps qui progressivement se fait coloniser par une couleur m'a fait rentrer dans un questionnement où j'avais à ma disposition de multiples indices qui étaient là, qui ne demandaient qu'à être pris dans ma famille sous forme de documents, de tableaux, de paroles, de non-dits, de trous comme de pleins, et dont tout d'un coup je me suis saisi pour m'interroger. Et en fait, à partir de là, tout d'un coup, je me suis mis à me tourner vers ce passé familial qui est encore complètement forclos. Mais j'habite à Bordeaux depuis 10 ans. Je sais qu'il y a une rudesse. Je rencontre Mémoire et Partage. Il y a un livre qui est publié par cette association qui s'intéresse au passé négrier de la ville de Bordeaux. Et dans ce livre, il y a une recension des capitaines corsaires et négriers de la ville de Bordeaux. Et je retrouve Pierre Dès. Et à partir de là, je regarde un petit peu les documents que j'ai en ma possession. Il y a des gens dans la famille qui ont fait des histoires de Pierre Dès. Donc, ça ne sont que des hagiographies. On ne vante que le héros corsaire. Mais entre les lignes, on voit qu'il n'a pas fait que ça. Et donc on tire le fil et on découvre que non seulement c'est un négrier, mais c'est aussi quelqu'un qui est très inclus dans le milieu de la traite bordelaise. Et donc dans l'influence autour de cette traite, la volonté de la défendre. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est complètement à fond dans ce commerce criminel.
C'est vraiment ça l'idée du débat mouvant, c'est de ne pas rester campé sur ses positions binaires, mais de se laisser transporter. Ça va ? Personne d'autre ne bouge, alors on va prendre un autre argument de ce côté.
Mais nous avons choisi le camp du déboulonnage, parce que déboulonner, dans un premier temps, c'est dénoncer. Si on ne déboulonne pas, on va laisser les noms de gens qui ont participé donc, à ces exactions. On ne va rien toucher, on va rester dans le confort. Donc dans un premier temps, il faut déboulonner. Mais effectivement, on est aussi d'accord avec certains arguments du camp d'en face. C'est que ça ne suffit pas. On déboulonne, on efface, on met un autre nom, plus joli, et l'histoire est finie, tout le monde est content. Et ça ne suffit pas, parce qu'il faut se souvenir aussi. Il faut se souvenir qu'anciennement, cet hôtel particulier, il a appartenu à une famille qui a profité évidemment de ce trafic-là. Donc il faut... garder la trace aussi. Donc on est à cheval entre ce camp et celui-là.
Alors, merci beaucoup, mais du coup, vous n'avez pas respecté les règles du jeu. C'était quoi votre argument ? Non, mais juste votre argument pour déboulonner, c'était quoi ? Le début de la phrase, c'était...
Déboulonner, effacer. Effacer, rayer. Mais même pas dénoncer. Dénoncer, rayer.
Voilà. Je trouve ça peut-être pas forcément pertinent de vouloir rayer un nom, une histoire, parce que ce nom ou cette histoire, aussi dégoûtante soit-elle, a existé. Et donc, rayer, c'est oublier, et oublier, c'est permettre que ça recommence.
Comment Bordeaux a commencé la traite négrière ?
Alors c'est toujours un point difficile à aborder, parce que pour l'instant, la première expédition qu'on a retrouvée, c'est 1672.
Caroline Lemao, professeure d'histoire moderne à l'université Bordeaux-Montaigne.
Pour parler familièrement, c'est un peu ce qu'on appellerait un one-shot. C'est-à-dire qu'il y a une première expédition, puis il n'y a pas de suite derrière. Il faut attendre plutôt les années 1720-1730 avant qu'on ait des gens qui fassent non plus une expédition, mais deux, trois, quatre, et qu'on commence à voir à Bordeaux des organisations régulières d'expéditions. c'est que pendant longtemps, Bordeaux, tout simplement, a fait autre chose. Alors, assez spontanément, on va dire, ah bah oui, elle fait du commerce du vin, mais en réalité, c'est pas l'enjeu, le commerce du vin. Ce qu'a fait Bordeaux pendant longtemps, c'est du trafic en droiture. Alors, ce qu'on appelle le trafic en droiture, en fait, c'est lorsqu'on prend des marchandises de la métropole et qu'on les envoie directement aux Antilles, à Saint-Domingue en particulier, et qu'en vendant ces marchandises, en fait, on achète ensuite des denrées coloniales produites par les esclavisés qu'on ramène directement en métropole. Donc c'est quand même lié, même indirectement, à la traite, quoi. C'est ça vit du travail des esclaves. En fait, la grosse, grosse période de traite, et c'est ce qui fait l'originalité de Bordeaux par rapport à d'autres ports, c'est qu'elle a eu une activité, mais extrêmement intensive, quasiment sur une décennie en fait, ce qui paraît relativement peu. Mais 1785-1795, là, c'est le moment Bordeaux, mais ça donne à la traite de manière extrêmement violente.
Alors ici, on arrive dans un espace, donc le passage du milieu, c'est une des parties les plus violentes de cette tragédie humaine, de ce crime contre l'humanité, que souvent on oublie. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les esclavés sont uniquement dans les Antilles, alors qu'en réalité, on les a arrachés à travers des guerres endémiques dans lesquelles ils ont été captifs. Ensuite, ils ont été vendus, parqués dans des navires. Et ensuite, il y avait le mois de traversée de l'océan. Et là, il y avait une violence qui était absolument terrible.
Christian Bloch.
Cette violence ici, parce que c'est une des difficultés d'une exposition.
Conservateur au musée d'Aquitaine.
Comment montrer un crime contre l'humanité à travers les documents que nous avons ? Cette archive-là, justement, elle est ultra-violente. Ici, c'est un document d'assurance. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolte, ce qui était grandement craint par les capitaines des navires négriers. Et ce document fait l'état, finalement, des pertes humaines parmi les captifs, issus donc de la révolte. Et certainement pas dans une dimension d'empathie. Le but est de savoir ce qui est à la charge ou pas des assureurs.
Avis de la Chambre de commerce de Bordeaux sur un litige d'assurance concernant le décès de captifs lors de la traversée de l'Atlantique. 17 avril 1791. Les directeurs de la Chambre du commerce du département de la Gironde estiment que le nègre qui s'est jeté à la mer et s'est noyé, ainsi que les 25 nègres tués par les gens de l'équipage qui ont été obligés de faire feu sur eux, et les 5 qui sont morts des suites de leurs blessures, sont à la charge des assureurs. Mais non la négresse qui est morte après avoir avalé sa langue.
Quand on lit ce texte qui est d'une abomination absolue, on voit que ceux qui ont été blessés, notamment dans le cadre des combats qui ont eu lieu pendant cette révolte et qui ont été tués, eh bien, sont à la charge des assureurs. Mais en revanche, une personne qui est morte pour avoir avalé sa langue, est-ce une résistance, est-ce un suicide, est-ce un malaise ? On ne le saura pas. Mais cette personne, entre guillemets, qui a une mort, si j'ose dire, accidentelle, n'est pas à la charge des assureurs. Et là, on est au cœur du processus de déshumanisation totale. Voilà la badine du capitaine Dess. Un bâton fait en bois de noisetier et qui avait pour but de flageller les corps. Et on imagine les blessures, effectivement, et la douleur physique et bien que cela pouvait faire. Et comme vous pouvez voir, le morceau de bois qui a été retenu pour son côté flexible de manière à bien faire un fouet a gardé également un certain nombre de turgescences naturelles issues de bourgeons ou de départs finalement de branches qui ont été sectionnées, mais qui viennent vraiment râper, frapper, ronger les chairs lorsque ces dernières sont flagellées par cet objet. C'est un objet de pouvoir et c'est un objet de coercition et c'est un objet de violence.
Alors, quand on est descendant d'une famille de négriers, est-ce qu'on garde des objets de sa famille dans sa maison ?
Alors oui, j'ai quelques objets. Donc le premier, je le montre. C'est un coffre de marin, donc un rectangle noir avec le nom de mon quadrisaïeul, Pierre Dess. Et dedans, j'ai aussi
Donatien Garnier.
Deuxième objet.
Poète, performeur.
Trois objets, déjà, j'en avais oublié.
Plasticien.
D'une part, un portrait de Pierre Dess. qui était donc chez mon père en bonne place. Donc c'est un portrait en noir et blanc, une gravure. Et on voit un peu tout un tralala romantique, une casquette sur le côté, un foulard dans le vent. Donc la construction d'un héros maritime en dehors de cette activité qui a été la sienne pendant des années et pour laquelle il a milité. Le troisième élément que j'avais oublié, c'est assez croustillant. C'est un petit document qui, je crois, reprend un article qui s'appelle « Le dévouement de Pierre Dès ». En fait, c'est un long poème en vers, pseudo-hugolien. Enfin, c'est vraiment complètement pompier. C'est des vers de Mirliton qui racontent le haut fait de Pierre Dès, qui a été le sauvetage d'un navire au large de La Réunion, qui a servi, à mon avis, très largement à masquer son passé négrier et qui est la légende qui est très largement reprise dans ma famille.
Tu peux nous lire un extrait de ce poème ?
Alors, il faut que je récupère mes lunettes. C'est vraiment effroyable, hein. Je sais même pas ce qu'on peut... On peut rien sauver de ça. C'est pompeux. C'est horrible. Je prends au hasard, hein. Ah, qu'il reçut un cœur et grand et généreux, celui qui, pour sauver son frère malheureux, affronte cette mort et sous la faux rapide présente à la victime une main intrépide, rend à son œil mourant les délices du jour ou sur ses pas descend au ténébreux séjour. Bon, c'est affreux et c'est totalement indécent, évidemment, quand on connaît l'implication de cet homme dans la traite négrière.
Ça, c'est un document que tu as eu comment ? Ce recueil de poésie.
Je ne sais plus. Et en fait, c'est une des choses qui sont intéressantes dans le parcours que j'ai eu avec la petite enquête que j'ai faite sur cet homme. En fait, c'est comment finalement je suis devenu dépositaire dans ma famille d'un certain nombre de documents, d'écrits qui tous étaient plus ou moins à la gloire de cet homme, mais qui pour moi finalement ont fini par constituer des indices qui m'ont incité avec d'autres choses à aller voir plus loin. Si j'ai reçu ces documents, ces tableaux, ces indices, c'est parce que j'ai été très longtemps journaliste en tout cas, et que finalement m'a délégué la fonction enquêtrice. On me l'a délégué de façon totalement inconsciente, je pense, mais c'est ce qui s'est produit.
Le tableau, par contre, ça, tu le voyais, il a bercé, entre guillemets, ton enfance, puisqu'il était dans la maison familiale.
Il était chez mon père, dans son appartement, bien en vue, et effectivement, il a bercé mon enfance, il m'a aussi fait rêver. Pour moi, c'était le corsaire de la famille, le pirate. Quand on est môme, on a envie d'avoir un ancêtre pirate, on est très content. Et voilà, j'ai grandi avec cette figure comme ça, un peu mythique, mais dont on parlait quasiment pas. Il y avait juste une image et ce mot, corsaire.
Qu'est-ce qui se passe, du coup, dans ta tête quand tu comprends qui était véritablement cet homme, qu'il était loin de l'image du héros qu'on t'avait décrit? Comment ça se passe dans ta tête? Est-ce que tu en veux à ta famille d'avoir véhiculé cette image?
Je pense que la première des choses, c'est que je me suis interrogé sur les raisons pour lesquelles on avait occulté cette dimension, pourquoi elle n'était jamais racontée. En tout cas, ce qui s'est produit, c'est certain, c'est que j'ai compris qu'il y avait une dimension politique et que finalement, ce dont il était question, dans une famille bourgeoise, plutôt nantie, c'était aussi la question du capital. Donc, d'où vient l'argent dont on dispose ? En l'occurrence, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas eu de transmission de capital, mais c'est presque pire puisque ce qui s'est transmis, c'est plutôt quelque chose de symbolique. C'est quelque chose qu'on ne dit pas, mais qu'on assume, finalement. Et pour moi, je pense que le réflexe premier, c'était de dire « je veux sortir de cette histoire, de ce déni, je veux regarder en face ce qu'est la traite négrière, et surtout dégager mes enfants, puisque je suis père de deux garçons, de ce lignage. Je souhaitais m'en extraire. » Et en fait, je pense que ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre ce qu'a été, enfin, si tant est qu'on puisse vraiment comprendre, mais de ce qu'a été cette entreprise capitaliste mondiale. On a une conscience très forte aujourd'hui, heureusement, avec le travail des historiens, des violences qui ont été subies par les esclaves, par les gens qui ont été déportés d'Afrique. Mais par contre, on connaît moins l'état d'esprit des négriers. Et moi, je pense que c'est un crime organisé. Et que ensuite, comme ça a été le cas plus tard dans l'histoire, on a aussi organisé l'effacement des traces.
Jusqu'à présent, avec l'oubli de tout ça, tout était calme, tout allait bien. La place des morts est dans les caveaux! Pas sur les frontons de rue, sur la place publique. Toute poussière n'est pas bonne à remuer, franchement, franchement, franchement.
Et puis, il y a aussi quelque chose de plus subtil, je pense, qui passe dans les familles, ou comment, avec l'héritage d'un capital qui soit symbolique ou financier, on hérite aussi d'un secret clos, c'est-à-dire d'une caisse noire fermée à triple tour et qu'on ne peut pas ouvrir. On peut pas ouvrir, donc les mécanismes psychiques sont complexes. Je suis pas expert en ça, mais un témoignage personnel que je peux donner, c'est que une des choses qui m'a aidé à ouvrir le coffre-fort, c'est de faire une analyse. La psychanalyse, c'est du lien, donc ça aide à relier les points. Et au bout d'un moment, la figure apparaît. Et la figure qui pour moi est apparue, c'est celle de l'ancêtre négrier. En palimpseste d'une figure d'un ancêtre héros corsaire. Et cette histoire, pour lointaine qu'elle puisse sembler, elle est en réalité très présente. Et elle détruit des vies parce qu'elle vient ronger sans qu'on en comprenne la cause des descendants, je pense, ou elle vient reproduire sans fin un système sous d'autres formes.
Pour découvrir par vous-même de cet abracadabrantesque histoire, c'est toute la population de la ville qui en pâtit.
C'est toute la ville qui a profité depuis l'individu qui travaille sur le port de Bordeaux et qui a embarqué les sacs sur le navire, jusque effectivement aux grands propriétaires qui avaient tout simplement de l'argent à placer. Et qui, de la même manière que vous placez de l'argent aujourd'hui à la banque, lui, il a placé de l'argent dans une expédition négrière.
Caroline Lemao.
Donc en fait, les retombées sur Bordeaux à l'époque, elles sont multiformes.
Professeur d'histoire moderne à l'université Bordeaux-Montaigne.
C'est-à-dire que les gens sont très concentrés sur la problématique de la traite, de l'implication dans la traite, etc. Je consultais encore, par exemple, récemment, le site de la mairie de Bordeaux, qui est des noms de rue, qui cible un certain nombre d'individus. Il ne se focalise que est-ce que la personne a participé ou non à une opération de traite. Mais des Bordelais propriétaires de plantations, vous en retrouvez énormément. Et donc des Bordelais propriétaires d'esclaves.
Ça résonne, moi, avec une recherche généalogique que j'ai faite, où j'étais surprise de retrouver parmi mes ancêtres un Bordelais. Je me suis installée à Bordeaux complètement par hasard, sans connaître cette ville et sans savoir que j'avais un lien généalogique avec cette ville. Et parmi mes ancêtres, dans la branche de ma mère, j'ai retrouvé un certain Dumas. Et quand je suis allée aux archives de Bordeaux pour savoir qui était cette personne, on m'a dit que c'était un procureur du Parlement de Guyenne. Et son fils, Vincent Dumas, est allé émigrer en Martinique au XVIIe siècle. Donc ça, finalement, c'était courant pour, à l'époque, que de tenter sa chance. Fils d'un procureur du Parlement, c'était important à l'époque.
Alors je vous remercie justement de m'avoir indiqué, parce que ça m'a intrigué ce personnage. Donc j'ai essayé de faire quelques recherches. Alors malheureusement, Dumas est quand même l'un des noms les plus courants du monde. Donc j'ai pas eu beaucoup de chance pour trouver. Mais c'est son parcours. Si on dépasse le cas particulier et ce qu'on peut établir factuellement sur l'individu, on peut malgré tout raisonner avec ce qu'on sait par ailleurs. Procureur au Parlement de Bordeaux, en fait, je dirais c'est classe moyenne. Dans le milieu urbain de l'époque, on est plus, avec tout le respect que je dois à votre ancêtre, sur le domaine du gras de papier, ou en tout cas, quelqu'un qui a un savoir-faire, qui sait lire, écrire, qui a fait du droit, et qui, parce qu'il maîtrise le droit, ben voilà, ce qu'on appelle une bourgeoisie à talent. Donc on est sur cette catégorie-là, et du coup, l'émigration, elle fait sens. C'est-à-dire que il va chercher fortune aux îles. C'est le très beau livre de Jacques de Conal, l'Eldorado des Aquitains. C'est-à-dire que, oui, vous avez des perspectives en métropole, il aurait sans doute fait une carrière tout à fait honnête à Bordeaux. Si vous allez à la Martinique, et avec ce type de savoir-faire, vous avez la chance, alors, soit de vous placer auprès... Alors là-bas, on ne parle pas de Parlement, on parle de Conseil souverain, mais il y a ce type de poste qu'il peut ambitionner. S'il a des attaches commerciales du côté de Bordeaux, il va peut-être réussir à trouver une place de régisseur sur place. Les fameux administrateurs de ces grandes plantations qui restent à Bordeaux, mais lui, il peut être sur place pour gérer. Et puis, étant bordelais, il y a des solidarités bordelaises, vous savez comment ça fonctionne. Ça inspire une forme de confiance. Et en plus, comme c'est la Martinique, c'est intéressant, Saint-Domingue, vous êtes plutôt sur de la grande propriété. Donc si vous n'arrivez pas avec des capitaux, etc., vous avez peu de chances de vous en sortir. La Martinique, on est sur des plus petites propriétés. Il arrive avec un savoir-faire. Il arrive dans une zone pas trop occupée. Alors voilà, on a une base de départ. Il faudrait creuser là-dessus. Mais le cursus type, de toute évidence, il a réussi à se marier sur place.
Oui, avec une créole.
D'ailleurs, voilà. Une Thévenin. Alors oui. J'ai pas fait non plus de recherche de ce côté-là, mais il s'est marié avec une créole. Qui est sans doute elle aussi fille de propriétaire installé, de planteur. Et donc j'ai commencé par des petits bourgeois et je finis avec des ancêtres qui se sont bien installés, bien implantés. Mais pour le coup, c'était pas une exception. À l'époque, oui, il y a eu beaucoup de Bordelais qui ont fait comme ce Vincent Dumas et ont tenté l'aventure dans les colonies.
Oui, exactement. Ce milieu d'individus, alors c'est ce qu'on a appelé, à l'époque, on appelait ça les petits blancs.
J'ai des preuves irréfutables, avec des faits historiques à l'appui, selon lesquels Bordeaux n'a pas connu d'esclaves dans ses rues. Jamais on n'a vu de ces personnes ici. De ce côté-là, on est propre. Je n'ai rien contre le fait qu'on parle de ces personnes. C'est grâce à cette main-d'œuvre servile, tout le commerce du sucre, du café, de ces denrées à l'époque. Évidemment qu'on ne saurait omettre cela, mais je défie quiconque de me prouver que Bordeaux a vu passer des individus captifs dans des cales de bateaux. Cela, on ne peut en aucun cas le prouver, il n'y en a jamais eu.
Il y avait trois caractéristiques principales à Bordeaux. Il y avait tout d'abord ce que l'on appelait les libres de couleur et les affranchis. Donc c'était ceux qui avaient obtenu un affranchissement qui étaient libres. Les documents d'archives montrent que si certains d'entre eux, notamment dans la thèse de Julie Duprat, ont réussi et ont pu s'insérer dans la société bordelaise, d'autres en revanche connaissaient quand même les affres de la discrimination et avaient des difficultés ou ne cessaient de devoir prouver en permanence leur affranchissement. Donc on voit à partir de là que la situation n'était pas toujours évidemment facile.
Christian Bloch, conservateur au musée d'Aquitaine.
La deuxième catégorie que l'on a, c'est ce que l'on appelait à l'époque, donc c'est un terme d'époque que je reprends, les nègres à talent, c'est-à-dire que c'était des esclavés que l'on faisait venir des colonies, des plantations, par voie maritime, et qui venaient ici à Bordeaux apprendre un métier, généralement un métier de domesticité. Et une fois que ce métier de domesticité ou d'artisanat était appris, que les compétences étaient acquises, on les renvoyait effectivement dans la plantation où on avait besoin de ces plantations et où l'on retrouvait leur statut d'esclave. Statut qui finalement ne les avait jamais quittés, parce que la troisième catégorie, évidemment, est la plus importante, ce sont les esclaves. Et là aussi, souvent, on a joué un petit peu des ambiguïtés ambiguïté sur le fait qu'il ne pouvait y avoir en France d'esclaves depuis l'édit de Louis X le Hutin en 1315 et que finalement on a joué un peu sur les mots entre esclaves et domestiques. Et ce document-là est particulièrement important parce qu'il fait partie de cette enquête de 1777 faite dans la généralité de Bordeaux et où il est clairement établi, vous voyez ici, état des Noirs, esclaves. Le terme est employé en 1777. Et on est en France, on est à Bordeaux, généralité de Bordeaux, état des Noirs esclaves de l'un et de l'autre sexe. Et quand on voit ici la liste des nombreux esclaves, on voit que l'on a affaire aussi bien à des hommes et à des femmes, mais également à des enfants et à des vieillards qui ont essentiellement et majoritairement, certes, un rôle de domesticité. Mais c'est une domesticité forcée, c'est une domesticité servile. Et donc nous n'avons pas affaire à des domestiques, nous avons bien affaire à des esclaves, comme d'ailleurs hein, le confirme et le souligne le tableau qui est mis juste à côté, dans lequel nous voyons ces représentations qui sont caractéristiques du XVIIIe siècle, avec ces nobles européens qui se font peindre finalement en ayant à côté des animaux de compagnie, comme vous pouvez le voir ici à travers le singe, et puis qui tiennent dans cette ambiguïté finalement eh bien cet enfant de couleur, cet enfant africain. Mais surtout ce que l'on peut voir, c'est que vous avez ici la représentation du collier d'esclave qui est la preuve de cette servilité existante évidemment en France et qui est également la négation de la dimension humaine de l'autre. Donc pas d'ambiguïté sur le statut de ces domestiques qui sont effectivement des esclaves présents en France. Et c'est la raison pour laquelle les autorités vont faire ces inventaires en 1777, parce qu'au bout d'un moment, l'autorité va effectivement limiter leur présence en métropole.
Nègre, 17 ans. Arrivé le 15 janvier 1776 à Bordeaux, profession domestique. Nègre, 12 ans, arrivé en 1775, profession perruquier. Négresse, 40 ans, arrivé en avril 1769, chaussetière comme profession. Nègre, 36 ans, arrivé en 1746, profession cuisinier. Nom des maîtres, Bonafé, Séguineau, frère, Rivière, Larieux, Guillon, Villeneuve, Baudin, Bonfin, Dupin, avocat.
De ne pas rebondir sur ce qui a été dit.
Tout le monde a le droit d'être à l'aise dans l'espace public. Et il y a des noms et des visions qui sont offensantes. Donc nous proposons des musées, des lieux, des œuvres des Boulonnais, où tout le monde pourra aller réfléchir au calme, loin des rues qui appartiennent à tout le monde.
Mais nous déboulonnons.
Oui.
C'était juste pour dire que ici à Bordeaux, on a... voilà. Peu importe, il y a pas mal de bâtiments. En tout cas, pour les personnes qui sont allées se renseigner, savent que tel ou tel bâtiment a abrité telle ou telle famille. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien qui dit c'est tel ou tel bâtiment. Donc moi, je suis pour qu'on garde, mais alors, ça veut dire qu'il faut vraiment mettre les plaques. Ça veut dire que quand une personne passe devant un bâtiment, on sait que ce bâtiment, ça a appartenu voilà, à un négrier. Et ça, ce n'est pas fait à Bordeaux. C'est pour ça que je ne suis pas pour...
On écoute les personnes qui ont le micro dans la main, s'il vous plaît.
C'est pas tout blanc, tout noir, quoi.
S'il vous plaît.
Alors, je suis pas en train de dire que c'est tout blanc, tout noir, monsieur.
Bah, si, c'est un peu ça.
Non, c'est pas ce que je dis, parce que j'ai dit qu'en fait, il y a des... J'ai dit que sur certains bâtiments, en effet, on peut le savoir, mais pas sur tous les bâtiments. Sur la plupart des bâtiments à Bordeaux aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
Sur aucun bâtiment. Ouais. Sur aucun bâtiment, il n'y a de panneau explicatif. Sur les rues, oui, mais sur aucun bâtiment. Voilà.
Donc en tout cas, moi je suis pour qu'on garde, parce que si on garde, ça veut dire qu'il faut montrer. Mais il faut montrer vraiment, et non pas juste dire ça existait.
Franchement, 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 pour certaines raisons, sur certaines choses, il vaudrait mieux se taire. Franchement, on ne remue pas tout. La République ne peut pas s'amuser à venir tout remuer, à remuer comme ça des souvenirs. Mais c'est ouvrir une boîte de Pandore que de vouloir revenir avec cette histoire de reprendre les noms des rues de tous ces personnages que nos ancêtres aient commis dans leur vie. Des actions un peu honteuses, on le sait, on fait avec. On vit avec ça depuis longtemps. Pourquoi d'un coup, aujourd'hui, en faire tout un scandale? Toute chose n'est pas bonne à se ressouvenir. Pour certaines, on doit se résigner à les enfouir loin!
Ça a été difficile avec l'élite bordelaise, ça a été difficile avec la mairie de Bordeaux.
Carfa Diallo, fondateur de Mémoire et Partage, association qui milite depuis 1998 sur le passé négrier de Bordeaux.
Donc nous, on a essuyé un peu les plâtres de l'impossibilité mémorielle véritablement bordelaise, puisqu'il a fallu multiplier les initiatives, il a fallu être extrêmement inventif, combatif aussi, pour ne pas céder face à la volonté de minimiser, d'euphémiser l'histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs à Bordeaux, qui est une histoire très particulière en plus, puisque Bordeaux, c'est une ville qui a construit aussi sa prospérité et son image dans le monde autour du vin, c'est-à-dire autour d'une image glamour, festive, de la célébration. Je dis souvent pour rigoler que c'est compliqué de pouvoir dissoudre le noir dans le rouge, véritablement. Et ça a été le cas pendant très 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 longtemps. Mais toujours est-il que la ville a été obligée d'évoluer, d'abord parce que la sociologie de la ville a changé. Les descendants des grandes familles qui se sont enrichis dans ce commerce-là se sont raréfiés, sont partis de Bordeaux. De nouveaux Bordelais sont arrivés, on va dire, à la fin des années 90, au début des années 2000, avec effectivement un rapport à cet orgueil colonial bordelais beaucoup plus distancié et une volonté de dire, bon, ça c'est l'histoire de France aussi, dans ses ombres, mais aussi dans ses lumières. Essayons de faire composer les deux. Donc cette entente-là, ce dialogue-là a pu s'établir quand même dans le temps, et notamment parce qu'il y a eu des évolutions nationales. Le vote de la loi Taubira en 2001, qui dit que la traite et l'esclavage noir est un crime contre l'humanité, ça a été un énorme booster, véritablement. Il y a aussi le fait qu'en 2006, on ait la première journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage, donc on ne peut plus faire l'impasse sur le sujet.
C'est une journée particulière que nous vous offrons. Puisque ces visites guidées, ces parcours mémoire ont été inventés, mis en place, lancés à Bordeaux par notre association en 2012. Jusqu'en 2012, aucune ville de France, aucun ancien port négrier français n'avait pensé qu'on pouvait valoriser une histoire aussi terrible, aussi criminelle que l'esclavage et la traite des Noirs.
Carfa Diallo donne de la voix dans les rues de Bordeaux depuis bientôt 30 ans. Ce militant vient de la diaspora sénégalaise, en lien avec la capitale girondine depuis le 19e siècle, depuis que des Bordelais ont fait partie des premiers colons du Sénégal. Étudiant déjà en lutte dans son université de Dakar, Carfa a poursuivi un combat mémoriel à Bordeaux.
Alors c'est vrai qu'au début, on était dans une optique de débaptiser, un peu fidèle à l'histoire de France, puisqu'en France, depuis la Révolution française, on s'est amusé à chaque nouveau régime à effacer toute trace du régime précédent. Et puis très vite, en réalité, dès 2009, l'année où on lance cette campagne, notamment conseillée par Patrick Chamoiseau, nous comprenons que débaptiser n'était pas suffisant, que débaptiser pouvait même être contraire à l'idée de la conservation et de la transmission. Puisque si on efface les rues, si on les débaptise, on efface cette mémoire-là. On ne peut plus en parler. D'autant plus que nous avions lancé ces visites guidées sur l'espace public français d'une manière générale. Si disparaissaient toutes les traces de l'histoire criminelle de nos villes, quelle possibilité aurions-nous d'être dans la relation, de pouvoir parler de cette histoire, de pouvoir en discuter? C'est un combat qu'on a dû mener très seul, puisque pendant une bonne dizaine d'années, la ville de Bordeaux n'a pas voulu se saisir de cette solution qu'on trouvait. Il a fallu la mort de George Floyd en 2020, puisqu'en fait, toutes les municipalités, et notamment les municipalités des anciens ports négriers, se sont mis à craindre effectivement des soulèvements qui abattent les statues et les monuments. Et donc c'est à partir de ce moment-là que la ville de Bordeaux a s'est souvenu de la solution qu'on proposait et qu'elle a installée un peu à la va-vite et un peu n'importe comment à l'époque, des panneaux explicatifs sur 5 des 20 rues de négriers. Entre débaptiser et laisser les noms des rues tels quels, ben, il y avait une solution intermédiaire qui était d'expliquer. Et c'était une forme de déboulonnement, parce qu'on faisait redescendre de leur piédestal des gens qui ont été honorés dans l'espace public européen occidental pendant plusieurs siècles. Voilà. Et c'est ainsi qu'on a eu la rue Colbert, qui est la seule rue en France de Colbert, qui s'est vue apposer un panneau explicatif, c'est dans le quartier Font de Dège. Et puis, et c'est vrai, en 2019, au fur et à mesure du travail que nous faisions en lien avec la municipalité, il y a la statue de Modeste Testas, qui a été inaugurée en 2019 par le maire Nicolas Florian, qui a remplacé Alain Juppé quand il a quitté la politique. Et c'était aussi un moment fort, d'abord parce que c'est une femme qui était mise à l'honneur. C'est une femme qui a été la propriété d'une famille de Bordelais, dont on s'est servi sexuellement. Et honorer une telle femme, ça participait véritablement à pouvoir honorer toutes les femmes noires dans ce qu'elles vivent de violences intersectionnelles dans l'histoire. C'était un moment essentiel. Elle a été affranchie par la suite par cette famille de Bordelais. Et c'est une femme qui a marqué la vie politique de Saint-Domingue, puisqu'elle est originaire d'Haïti. Et encore une fois, ce n'est pas pour rien que ce soit Haïti, puisque Haïti est la principale colonie française en Amérique. Au XVIIIe siècle, c'est 500 000 captifs africains, 30 000 colons. 40% des 30 000 colons qui exploitaient la colonie française la plus riche d'Amérique sont des Bordelais. Donc c'était que justice qu'effectivement que cette Haïtienne, Modeste Testas, soit honorée sur l'espace public. Ça participe à briser l'oubli, ça participe à réparer.
Et nos enfants, il y a nos enfants, nos jeunes esprits à venir, notre jeunesse. On ne doit en aucune façon les exempter de cette histoire. Nous devons leur apprendre à quel prix nous avons récolté le sucre, à quel prix nous avons satisfait notre besoin de café. Nous ne pouvons pas les laisser sans recours. Nous ne devons pas leur insuffler notre déni. Nous ne pouvons pas leur cacher d'où vient notre héritage, d'où vient qu'ils soient nantis.
En quoi Bordeaux a nourri la création que tu as présentée ici au festival Chahut, la Bible du déboulonnement ?
Ah, Bordeaux et Haïti, c'est quand même une très grande histoire d'amour.
Guy Régis Junior, écrivain, metteur en scène.
Histoire d'amour et de haine.
Directeur du festival Quatre Chemins à Port-au-Prince.
Il n'y a pas que Bordeaux, il y a La Rochelle, mais Bordeaux, c'est plus qu'intéressant parce qu'on a l'impression que cette histoire, elle est ici. Beaucoup plus problématique, beaucoup plus dur à en parler. Et on a vu assez clivant. J'ai suivi cette évolution-là au fil des ans. Moi, quand j'entendais Juppé parler de cette question-là, c'était toujours de façon timorée, quoi. Se souvenir, oui, mais non se culpabiliser. C'était dans une rencontre qu'il avait dit ça et j'avais trouvé ça affreux qu'il parle de se souvenir et non se culpabiliser. Alors, moi, ce que j'ai répondu à ce moment-là, bon, ben, pas de problème, je vous donne comme héritage Port-au-Prince et je prends Bordeaux. Comme ça, on va voir si on ne va pas se culpabiliser à un certain moment. Quoi.
Donc, du coup, toi, tu t'es nourri de ce déni de l'esclavage colonial, du passé négrier de Bordeaux, pour décrire cette polyphonie de personnages qui ramène Bordeaux à cette époque où elle avait du mal à regarder ce passé en face, en fait.
Absolument, parce que ça permet surtout de faire parler des gens d'aujourd'hui. Parce qu'en fait, ce travail-là que l'on fait, c'est un travail très souvent historique. On prend l'histoire et puis on raconte l'histoire. On a l'impression que parler d'histoire à chaque fois, ça ne concerne pas aujourd'hui. Tous ces bâtiments-là que l'on a trouvés, ils nous frappent encore aujourd'hui. Ils sont dans nos vies. Toutes ces statues dans l'espace public, tous ces noms de rues, interviennent dans nos vies, ils interfèrent dans notre réalité. Donc, l'important, c'est d'entendre ce que les gens en disent, d'arriver à entendre ce que les gens, aujourd'hui, partagent sur une question qu'on veut complètement dissimuler, cacher. Des fois, à son insu, hein, on sait qu'on n'en parle pas parce que c'est une chose, ah, le bon, oui, ça va, il y a eu ça. Bon, comme on dit en créole, on casse des feuilles et on couvre ça. Mais quand on dit qu'on casse des feuilles, on couvre ça en créole, en Haïti, c'est pour dire on couvre ça. On couvre quoi ? On couvre souvent de la fiente de bœuf, en fait. D'ailleurs, après, quand tu mets le pied dessus, ben, ça ne va pas. Et on n'arrivera jamais à cacher ce genre de choses-là. C'est une position complexe aussi, hein, quand on vient de l'Amérique. Moi, je ne suis pas d'ici. Je considère que toute cette chose-là s'est faite avec les Européens qui l'ont imposé, qui ont sacrifié tout un continent en prenant plus de 25 millions de personnes pour les ramener de l'autre côté. Et donc, nous. Et puis, d'arriver ici aujourd'hui et de dire, voilà ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas du tout la position d'un Haïtien, normalement. Les Haïtiens ne parlent pas de cette période comme si pour nous, c'était effacé. Parce qu'on a eu notre indépendance et qu'on a donné un coup de pied dans tout ça. Mais moi, je trouve que c'est très, très important que l'on parle de ça parce qu'il y a des traces, énormément de traces, de ce qui se passe aujourd'hui en Haïti par rapport à l'esclavage qu'il y a eu. Et beaucoup de traces. Bon, là, aujourd'hui, on commence à parler de la dette, ce qui est un sujet très, très intéressant pour revenir sur cette histoire-là, pour qu'on se rende compte que c'est pas si loin que ça, en fait. Parce qu'en fait, les gens, ils pensent que c'est si loin que ça. Non, non. Il y a 2 siècles et 20 et quelques années qu'on s'est libéré. Donc, 2 siècles, c'est rien à l'échelle de l'histoire de l'humanité.
J'avais dit que je ne dirais rien, mais bon. Moi, je suis pour le déboulonnage, mais strictement déboulonnage. On enlève tout. Ces gens se sont enrichis sur les dos des gens qui, aujourd'hui, sont dans la misère. Déboulonner, ça veut dire donner leur maison aux associations, aux orphelinats, à toutes ces choses-là. Ils ont été suffisamment riches pour qu'ils arrêtent de se plaindre. On prend tout.
Je voulais vous faire réagir juste à l'une des pièces vues dans le cadre du Festival Chahut, où l'un des personnages, donc on parle de Bordeaux face à son passé négrier, et on parle de la manière dont une certaine catégorie de la population a cherché à soit être dans le déni ou à atténuer un petit peu le rôle de Bordeaux. Donc là, on a un des personnages qui dit « Notre ville n'a pas à se couvrir de honte pour ce qu'elle fut. Notre ville doit être fière de ce qu'elle fut, de ce qu'elle a été, de ce qu'elle est, de ce qu'elle sera. Il n'y a à légitimer ni auto-culpabilité ni auto-flagellation. Se souvenir, oui, mais non se culpabiliser. » Alain Juppé.
Ha ! J'ai combien de temps pour répondre ?
Caroline Lemao, professeure d'histoire moderne à l'université Bordeaux-Montaigne.
Non, je dois avouer que c'est une question évidemment extrêmement compliquée. Je crois aussi qu'à partir du moment où on part sur la culpabilité, les portes se ferment. Là, c'est l'historienne qui parle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on libère la parole et on aborde les choses plus sereinement, on saura plus de choses et on pourra dire plus de choses. Pour moi, la question de la reconnaissance de ce crime contre l'humanité, elle passe par la recherche, elle passe par l'établissement des faits, elle passe par la connaissance des individus auxquels on n'a donné qu'un prénom. Et voilà, pour moi, l'enjeu, il n'est pas sur la culpabilité, il est sur, bah oui, ça a existé, il faut en prendre conscience, il faut rien cacher, et pour rien cacher, il faut donner les moyens aux gens de chercher. Donc, il faut encourager les chercheurs, les jeunes chercheurs, qui vont faire l'effort de faire ces recherches-là, de nous aider à les connaître différemment. Pour l'instant, pour nous, c'est des prénoms et c'est des chiffres. Aujourd'hui, ça devient des gens qui se rebellent sur les navires, des gens qui, une fois arrivés aux Antilles, parfois adhèrent au système, parce que quand vous êtes dans ce genre de système, vous faites ce que vous pouvez pour vous en sortir, y compris y adhérer. Des gens qui s'en échappent par l'affranchissement. Voilà, c'est tout ça qui nous reste à connaître.
Et ces jeunes chercheurs à Bordeaux ont le goût aujourd'hui pour ces sujets de recherche, pour continuer à fouiller cette mémoire de la traite négrière bordelaise?
Alors, il y en a un qui, une fois, m'a dit « Oui, ça m'intéresserait, mais le sujet me fait peur. Parce qu'il y a trop de pression. » Donc, vous voyez, quand on est, ce que je vous disais, sur des logiques de culpabilisation, de pression, etc., en fait, ça bloque complètement le travail. Se pose chez certains aussi le sentiment d'une problématique de légitimité. Je dis ça bêtement, mais quand on est bordelais et blanc, voilà, il y a un moment où la question peut éventuellement se poser de est-ce qu'on est légitime sur ces sujets-là ? Est-ce que, voilà, mon regard, il n'est pas déjà orienté ? Ah, bon, moi personnellement, j'ai décidé de m'en affranchir en partant du principe qu'il est très probablement orienté, mais qu'en multipliant les regards, on va bien finir par avoir quelque chose d'un peu équilibré, et puis qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe.
Vigilance, attention! Vigilance, attention! Vigilance, attention! Vigilance, attention!
Vigilance, attention!
Nous sommes tous des descendants, qu'on soit noir ou blanc, ce sont nos ancêtres qui ont commis ce terrible crime, qui en ont été victimes. Tout mon travail, c'est qu'on puisse revendiquer tous nos ancêtres, quels qu'ils puissent être. L'ancêtre du négrier, l'ancêtre de Donatien Garnier, c'est mon ancêtre, puisque c'est un humain qui, à un moment donné, a vécu et grandi dans une société qui ne lui a laissé d'autre choix ou d'autre éducation que d'aller participer à ce terrible crime. Ton ancêtre à toi, Aurélie Barbic, c'est aussi mon ancêtre. Voilà. Donc pour moi, c'est essentiel de revendiquer tous nos ancêtres. Tout le travail que nous faisons, c'est cela. Parce que si nous arrivons à nous mettre à la place d'eux, à mettre nos pas dans les pas de ceux qu'on a mis dans la cale, il y a cette identification pour moi qui est nécessaire, qui est vitale et à laquelle, oui, je participe avec d'autres aussi. Et c'est pour ça que ce qui s'éveille à Bordeaux, ce printemps effectivement de réparation, est un printemps qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager, mais il faut l'encourager avec une grande perspicacité, c'est-à-dire avec l'idée d'aller à la source des inégalités. À ce capitalisme-là qui s'est servi de la race pour maltraiter des êtres humains et qui s'en sert encore aujourd'hui pour tenir un certain nombre de populations dans des situations les plus sordides et les plus inégalitaires. Mais voilà, pour moi, dès l'instant où je suis dans l'action, dans la transmission de cette histoire-là, eh bien, je suis à la fois descendant d'esclaves, descendant de négriers. C'est le sens, en tout cas, moi, que je veux donner à ma vie et à cette mission qui m'est tombée dessus et qui a été un chemin voilà, difficile et compliqué et qui continue de l'être parce que c'est un travail exigeant. Bon, tu me fais parler.
Oeva, sa patrie lointaine, l'esclave pleure et maudit sa chaîne. Il voit
C'est Esclavage, héritage d'hier, voix d'aujourd'hui, une série documentaire d'Aurélie Bambuc, réalisée par David Jacuboviez, épisode 2, Bordeaux, un passé à digérer. Avec Donatien Garnier, Caroline Lemao, Christian Bloch, Carfa Diallo et Guy Régis Junior. Merci aux organisateurs du festival Chahut, à la Clé des Ondes, et à Ella Bordet, animatrice de la causerie des coloniales. Merci aux comédiens et comédiennes du spectacle La Bible du déboulonnement de Guy Régis Junior et à l'association Mémoire et Partage.
Mon cœur brisé par la souffrance.
À la technique, Lucien Lefebvre, Delphine Baudet. Mixage, Pierre-Henri. Archivina, Mylène Touchet. Chargé de programme, Anaï Morales et Marie-Vonne Abolivier. Coordination, Emmanuel Laurentin.
S'exhale de ma pauvre âme captive.
À suivre, épisode 3, Nantes, un présent à réparer.
Jarrah.